RFI, 6h30 à Kinshasa, 7h30 à Paris. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. Kinshasa et l'AFC M23 d'accord pour travailler ensemble à une trêve. Annonce conjointe hier des autorités congolaises et de ce groupe armé soutenu par le Rwanda. 54 soldats béninois tués la semaine dernière dans la zone du Point Triple. Bilan officiel fourni par le porte-parole du gouvernement. L'attaque la plus lourde depuis que les groupes terroristes du Sahel tentent de percer vers le golfe de Guinée. Au PDCI, colère et détermination. La formation d'opposition ivoirienne fait entendre son courroux après qu'une décision de justice prive quasiment son leader Tidiane Thiam de candidature à la présidentielle d'octobre. Présidentielle, octobre et candidature en suspens. Nous sommes aussi au Cameroun. Un tweet du président Biya laisse penser qu'il sera une fois de plus postulant à sa réélection. Le message n'est pas explicite, bien sûr. Les pays de l'océan Indien réunis en commission à Antananarivo, sommet lourd d'enjeux diplomatiques, on est sur place. Et puis l'indignation des ONG de protection des droits de l'homme au Niger, alors que l'Algérie a expulsé plus de 1100 migrants pour la seule journée de samedi, et ce dans des conditions particulièrement difficiles. Le fragile espoir donc d'une progression de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises et l'AFC M23, le groupe armé soutenu par le Rwanda qui s'est emparé de larges portions des provinces des Kivu, annoncent conjointement leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve. Annonce qui survient près de deux semaines après la médiation opérée par le Qatar entre les deux parties. Volonté de travailler ensemble, Patient Ligodi, on n'en est pas à une cessation effective des hostilités.
Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM23. Il ne manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite, le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche.
Patient Ligodi. Les autorités béninoises communiquent officiellement sur l'attaque du 17 avril dernier dans le nord du pays. Elles annoncent un très lourd bilan humain. 54 soldats sont morts selon Wilfried Ungbeji, le porte-parole du gouvernement. Les premiers chiffres évoquaient 8 militaires tombés. Cette attaque, la plus meurtrière depuis que les groupes armés terroristes se sont mis à cibler le pays, est survenue dans la zone dite du Point Triple, soit les frontières Bénin, Niger, Burkina Faso. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Le porte-parole du gouvernement n'a donné que le nombre de soldats tués, largement au-dessus des 8 morts des premiers jours. Et c'est une source militaire qui nous a confié que le nombre de blessés, le nombre de terroristes neutralisés sont également à la hausse. Selon certains détails, le point triple aura été le plus fatal aux forces de l'opération Mirador. Le triple point est la région frontalière du Bénin avec deux pays voisins. Il est stratégique. Le Bénin y a installé des postes avancés pour contenir les groupes armés et ne pas les laisser descendre. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrice Talon a rencontré le haut commandement militaire après ce qui est arrivé. Rien n'a filtré. Tout le pays est ébranlé par la mort de ces nombreux soldats tombés sur le théâtre d'opération. C'est le premier sujet commenté sur les réseaux sociaux. Depuis une semaine, l'opinion publique pose des questions pour en savoir plus et comprendre. Certaines de ces interrogations attendent toujours des réponses. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La fin hier soir de 2 jours de conseil de ministres, des ministres extraordinaires pour plusieurs représentants de la CEDEAO réunis au Ghana, en l'occurrence les ministres des Affaires étrangères et des Finances. Leur réunion visait à définir le futur des relations entre la communauté ouest-africaine et l'AES, Alliance des États du Sahel. Ils ont ébauché un plan d'urgence dont les contours n'ont pas encore été dévoilés. Ils le seront une fois que ce plan aura été remis aux chefs d'État de la CEDEAO. Ces chefs d'État qui doivent se réunir pour discuter de ce plan au cours du mois de juin. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire fait entendre sa colère après la radiation annoncée de Tidiane Thiam de la liste électorale. La justice, qui ordonne à la CEI de faire disparaître son nom de sa future liste définitive, ce qui de fait le prive de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre. Il n'y a pas de plan B, pas de plan C, disait-il quelques heures à peine après la décision. Les députés du PDCI n'ont pas siégé hier à l'Assemblée. Des appels à manifester se font entendre, tandis que le gouvernement continue d'assurer qu'il n'y a pas de main politique derrière cette radiation. Binta Diagne.
Au siège du PDCI, les militants sont motivés, déterminés à soutenir la candidature de leur leader, Tidiane Thiam, jusqu'au bout. Plusieurs personnes expriment leur amertume, comme Aristide Yao, un militant.
Les choses sont en train de se confisquer, donc on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre.
Ces militants sont frustrés de voir leur leader bientôt radié de la liste électorale. Les cadres du PDCI comptent s'organiser avec les autres partis d'opposition. Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI.
Nous sommes venus pour confirmer notre désapprobation totale quant à l'exclusion organisée du président Tidiane Thiam de la liste électorale. Donc nous allons nous organiser, nous allons nous préparer, en liaison également aussi avec le PPACI, avec tous les partis, avec tous ceux et toutes celles qui aspire à la démocratie.
Du côté des autorités, on rejette toutes ces accusations. Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement.
C'est facile de voir partout la main de l'État, mais je peux vous assurer que le président de la République est en train de réussir à construire l'État de droit qu'il veut que notre pays devienne, un pays respectueux des décisions de justice qui sont prises.
Alors qu'un appel à des manifestations a été mis, ce responsable met en garde. Le désordre ne sera pas toléré, dit-il. Ce n'est pas une menace. On peut considérer que c'est un conseil. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Tidiane Thiam, objet par ailleurs d'une autre procédure judiciaire aujourd'hui. Une militante du PDCI conteste sa légitimité, cette fois à la tête du parti et toujours en raison de son ancienne binationalité.
RFI.
Il est 5h37 à Abidjan, 8h37 à Antananarivo et nous sommes à Madagascar pour cette rare réunion des pays de l'océan Indien. La capitale accueille le 5e sommet de la COI qui regroupe la Grande Île donc, mais aussi Maurice, les Seychelles, les Comores et la France via le département ultramarin de la Réunion. Les échanges doivent porter autour de la protection de l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la sécurité tout court d'ailleurs, au regard de la forte militarisation de la zone. Côté coulisses, Paris pousse pour que Mayotte intègre également cette commission de l'océan Indien, ce que Moroni a toujours refusé jusque-là. Pauline Le Troquis est notre correspondante.
L'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a une occasion unique de plaider pour l'intégration de Mayotte au sein de la COI auprès des principaux concernés, à commencer par Azali Assoumani. Le président comorien qui revendique ce territoire lui a jusqu'ici toujours opposé un refus. Pour Paris, Mayotte en tant qu'île française doit bénéficier, au même titre que la Réunion, des programmes et des fonds de la COI. Paris défend donc une question d'équité et recherche une victoire politique au sein de l'organisation. Il s'agit de consolider la place de la France dans la région via le canal du Mozambique. Madagascar, le pays hôte de l'événement, a de son côté l'occasion d'affirmer son potentiel en termes de sécurité alimentaire. La Grande Île rassemble 98% des terres agricoles de tous les États membres de la COI. Elle pourrait être le grenier de l'océan Indien, à condition d'harmoniser les règles de libre circulation des biens entre les États membres. Celles-ci sont à ce jour loin d'être optimales dans une région largement dépendante des importations avec le reste du monde. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Autre enjeu de ce sommet, la souveraineté revendiquée de Madagascar sur les îles éparses, chapelet de petites terres dans le canal du Mozambique, sous administration française. Richard Ranjamandrat, ancien ministre malgache des Affaires étrangères, est notre invité pour en parler après ce journal. La diplomatie encore et ce premier déplacement sur le continent africain pour Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Il est arrivé tout à l'heure à Pretoria. L'Afrique du Sud qui y tient sur sa fine ligne de crête diplomatique, celle de ne s'aligner ni sur Kiev, ni sur Moscou dans la guerre d'invasion russe déclenchée il y a 3 ans. Il y a 3 jours encore, le président Ramaphosa s'entretenait au téléphone avec Vladimir Poutine. Les défenseurs des droits humains et les ONG indignés par une vague massive d'expulsions d'Algérie. Samedi dernier, plus de 1100 personnes ont été convoyées jusqu'à la frontière sud du pays avec le Niger et laissée sur place, charge à elle ensuite de rallier la ville nigérienne la plus proche, à 15 km de là, et alors que les températures frôlent en ce moment les 45 degrés. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie procède à ce genre de refoulement, mais Clotilde Hazard, une telle vague d'un seul tenant, c'est inédit.
1140 personnes expulsées d'un coup, c'est du jamais vu, selon le collectif d'associations nigériens Alarm Fund Sahara, qui vient en aide aux migrants sur les routes dans le désert. Ces personnes venaient en majorité d'Afrique subsaharienne et trois venaient du Bangladesh. Elles ont été abandonnées par les autorités algériennes près de la frontière du Niger, dans un endroit surnommé le Point Zéro. Les personnes expulsées doivent ainsi marcher une quinzaine de kilomètres pour rejoindre la localité la plus proche de la frontière au Niger, à Samaka. Sur la route, elles sont livrées à elles-mêmes dans une chaleur extrême qui fait régulièrement des victimes. Cela fait des années que de telles expulsions ont lieu sur cet axe, mais leur nombre est en forte hausse. Sur le mois d'avril, 4000 personnes sont arrivées à Samaka. Certains migrants reprennent la route vers le nord dès qu'ils sont débarqués du convoi d'expulsion, mais beaucoup repartent dans leur pays d'origine avec leur propre argent ou celui reçu de leurs proches. Et la majorité s'enregistre auprès de l'OIM et des organisations présentes pour bénéficier d'un voyage retour dans leur pays. Mais ces procédures volontaires prennent du temps et sur place, ces personnes manquent de tout. Celles prises en charge dans les camps décrivent des conditions de vie très difficiles et manquent de nourriture. En 2024, plus de 30 000 personnes ont été expulsées d'Algérie, un record.
Clotilde Hazard, le Cameroun se dirige-t-il enfin vers une candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle prévue en octobre? À 92 ans, dont 43 passés au pouvoir, le principal intéressé se garde bien d'être explicite sur cette question. Mais il a semé hier un indice, un nouvel indice même, qui tente à penser qu'il sera bien candidat. Ça se passe sur son compte X en l'occurrence. Deux points, ouvrez les guillemets, j'entends continuer à tout mettre en œuvre pour perpétuer la profonde mutation sociale et faire naître une véritable nation camerounaise. Une phrase que les observateurs de la vie politique consignent soigneusement aux côtés des autres qui vont dans le même sens, Polycarpe Samba.
Alors que les spéculations vont bon train sur ses intentions, cette sortie est venue rajouter à une constance observée depuis les tout récents discours de Paul Biya. Le 1er décembre 2024, lors de son discours de vœux à la nation, le président camerounais disait déjà sa détermination à servir intacte. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse, Paul Biya se projetait une nouvelle fois en disant notamment « Je continuerai de me tenir à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés ». Avec ce dernier tweet, Paul Biya lève un peu plus le doute sur ses intentions et semble dérouler un plan de communication par petits pas progressifs vers l'annonce de sa candidature. Une candidature que son parti, le RDPC, a déjà pour sa part entérinée, le parti ayant à de nombreuses reprises indiqué qu'il n'avait d'autre candidat que son président national qui n'est nul autre que Paul Biya. Et ce, en dépit de quelques impatiences exprimées en sourdine par certains cadres du parti qui espèrent toujours que le président passera la main, en dépit aussi des protestations dans les rangs de l'opposition, à l'instar du MRC par la voix de Maurice Kamto qui avait jugé cette possible candidature de criminels ou de certains évêques de l'Église catholique qui ont ces derniers mois pressé le président Paul Biya à renoncer à cette ambition. À un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, cette question ne tardera pas à être tranchée. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
À Yaoundé et à l'écoute de la Radio du Monde, il est juste 6h43 et vous êtes avec Andréane Mélard.
Et c'est